Il est midi 51 et c'est l'heure de découvrir la solution du jour, Elisabeth Assayag avec Dora Nana.
Tout à fait, partir en train et revenir en avion, c'est maintenant possible avec un trajet qui correspond à votre budget. C'est la solution du jour avec Roots. Bonjour Dora Nana.
Bonjour.
Alors aujourd'hui, comment on peut trouver un trajet aller-retour le moins cher et tout ça en une recherche?
Alors ça s'appelle Roots, comme partir à la Roots, hein, comme on dit. C'est un comparateur de prix sur Internet qui permet, donc, comme vous l'avez dit, en une recherche de trouver en fonction de son budget la destination qu'il nous faut, même pour 20 euros, oui, oui. Bonjour Sophie Pastol.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la dirigeante de Roots. Comment fonctionne exactement votre moteur de recherche?
Alors, en fait, Roots, c'est un comparateur multimodal qui permet de voyager selon son budget.
Multimodal.
Oui, voilà. Donc, en fait, on va comparer quatre moyens de transport, avion, bus, train et covoiturage. Et en fait, notre objectif premier est de vous faire gagner du temps et de l'argent en fait, sur votre recherche. Donc, vous pouvez utiliser notre site dans deux cas de figure. Donc, le premier, vous avez votre destination, un budget, peu importe le budget, vous pouvez être seul ou en groupe, et vous avez vos dates précises, et une ville de départ. Et donc là, par exemple, vous allez faire un Paris-Bruxelles du 27 au 28 octobre, peu importe les dates. Et en fait, on va vous dire, pour ces dates, pour l'aller, vous allez avoir un bus ou un train, et au retour, que l'avion qui rentre dans votre budget. Donc là, vous bookez en fait en quelques clics un trajet qui rentre dans votre budget, alors que normalement, ça prendrait un temps infini de comparer tous les allers et tous les retours pour rentrer dans vos frais.
Alors justement, c'est comme ça que vous est venue l'idée? Parce que moi, pour l'avoir déjà fait, quand on veut partir en train, revenir en avion ou faire mélanger, c'est super compliqué surtout. C'est qu'on passe notre temps à naviguer.
C'est plus cher parce que c'est mieux de prendre un aller-retour train ou avion.
Non, pas forcément, Elisabeth, justement.
Alors justement, des fois, ça rentre plus dans les frais, mais ça prend du temps à comparer à la main. Et des fois, on ne se dit pas que ça peut rentrer dans le budget.
C'est des heures et des heures. Je parle d'expérience.
Et après, justement, le deuxième cas de figure en fait, qui nous est arrivé, c'était on voulait partir pour le Nouvel An avec mes copines. On voulait partir de Paris, on avait un budget, on avait notre ville de départ qui était Paris, des dates très précises. Et on s'est dit, mais où est-ce qu'on peut aller justement, où est-ce qu'on peut aller avec ce budget?
Vous aviez combien en fait? Parce que justement, c'est combien?
On avait à peu près 100 euros en fait, on était encore étudiantes à l'époque, donc c'était pas un budget mirobolant. Et là, on s'est dit, mais où est-ce qu'on peut partir? Et en fait, justement, Roots, vous pouvez lancer une recherche justement sans destination, avec un budget, une ville de départ et des dates précises. Et là, on va vous offrir un panel de destinations uniquement européennes où, en fait, vous pouvez y aller. Alors, par exemple, vous allez choisir Londres, faire un Paris-Londres, et on va vous dire, vous pouvez partir à Londres, mais par contre, ça sera uniquement en avion. Mais par contre, le retour, vous allez avoir bus, covoiturage, train.
Vous étiez parti où alors pour le 31?
On n'est pas du tout parti.
Ah, ouais. Et d'où l'idée de Roots.
Voilà.
Pour trouver votre solution.
Le dégoût m'a fait monter Roots.
Luc.
Oui, est-ce que dans votre moteur de recherche, vous tenez compte de l'empreinte carbone ou pas,
Alors justement, c'est un sujet actuel. On n'en a jamais autant parlé qu'aujourd'hui. Alors, ce n'était pas dans notre stratégie de base. Clairement, nous, on partait justement du budget. C'était notre critère en fait, stratégique. Et en fait, pour l'empreinte carbone, vu qu'on laisse les gens choisir leurs moyens de transport, par exemple, il va avoir l'option avion ou bus pour l'aller et le retour en train. Il va se dire, pour l'aller, même si c'est plus long, je vais prendre le bus pour mon empreinte carbone. Donc, ce n'était pas dans la stratégie de base, mais il a complètement le choix de choisir son moyen de transport.
Je crois que vous avez raison.
Voilà. Ouais, après, c'est très long le bus, hein, des fois.
Et ça peut arriver que j'ai zéro réponse à ma recherche. J'habite à Vannes, je veux aller à Londres, il n'y a rien.
Voilà. Donc,
vous l'avez testé?
Expérience. Donc en fait, souvent, on propose souvent des destinations. En fait, notre algorithme fait en sorte de calculer, de vous proposer en fait des destinations selon en fait votre ville de départ. On ne va pas proposer les mêmes villes pour quelqu'un qui part de Paris, de Bordeaux, de Prague, de Bruxelles que quelqu'un qui part de Vannes. Par contre, ça va être une amélioration sur le long terme. D'accord. Voilà.
Oui, parce que moi j'ai testé. J'avais 50 euros. J'ai testé depuis Rennes. On m'a proposer uniquement un train pour Paris.
Oui, voilà. Ouais. Donc, en fait, c'est ça qu'on doit développer, c'est offrir un peu plus de choix ouais, de destination pour des villes telles que Vannes, Bordeaux, Lyon, etc. En fait, il faut qu'on trouve une solution en fait, pour vous offrir un peu le même panel qu'une personne qui est dans une métropole.
Vous êtes combien chez Roots?
On est que deux.
et ce sera quoi la suite? Vous allez lancer une V2?
Alors, on aimerait lancer une V2 en fait, qui intégrerait le paiement en ligne. Traduire notre site aussi pour s'internationaliser. Donc dans ce cas-là, justement, on est un peu en phase d'amorçage, on cherche des gens pour nous soutenir dans notre développement, etc. Parce qu'on ne peut pas tout faire à deux. Et on n'est pas expert dans tous les sujets.
Et vous vous payez comment aujourd'hui, justement ?
Alors, notre
pas de pub, j'ai l'impression, justement. Donc, comment vous vous payez ?
Donc, en fait, notre site est 100% gratuit. On est complètement transparent sur les prix. Et en plus d'être transparent sur les prix, on ne fait pas de pub. On ne veut pas qu'il y ait de pollution visuelle pour nos utilisateurs. Il n'y a rien de pire, en fait, je trouve.
Oui, ça, sur les sites, confirme.
Alors, comment faites-vous ?
Donc, en fait, on est payé au coût par clic. C'est-à-dire que quand vous allez être intéressé par une offre, par exemple, Rennes-Paris, donc en train, vous allez cliquer dessus, vous allez être redirigé chez notre partenaire. Et notre partenaire va nous rémunérer après un revenu préalablement négocié. Et en fait, sur le long terme, une fois qu'on aura intégré le paiement en ligne sur notre site, qui permettra en fait de réserver de A à Z le billet, là, on pourra rajouter un CPA, c'est un coût par acquisition. Donc, on aura, une fois vendu, le partenaire va nous reverser un pourcentage du prix du billet.
Et vous arrivez à en vivre ? Ça va pour l'instant ?
Pas aujourd'hui.
Bon, donc, ça va venir.
Voilà, on espère.
Après, oui, donc, oui, j'espère. Donc, il faut vous aider de partenaires. Quoi.
Voilà, en fait, on cherche aussi des investisseurs. Je pense qu'à deux, on ne peut pas tout faire et qu'on a besoin d'aide pour notre développement.
Comme ça, si on clique sur Paris, 50 euros, destination Saint-James.
Voilà.
Ouais. Merci en tout cas, Sophie Pastol. Je rappelle que vous êtes la dirigeante de Roots, R-O-O-T-Z-E. Merci à vous.
Il est midi 57. Europe 1.
Restez avec nous dans La France Bouge. Gros plan aujourd'hui sur nos animaux de compagnie. Comment suivre leur santé ? Comment trouver des endroits pour partir en week-end avec eux ? Gros plan sur ces innovations françaises dédiées à nos animaux de compagnie. Vous allez les entendre, des entrepreneurs français ont inventé des solutions. Ce sera juste après le journal de 13h.
Europe 1, midi 14h. La France bouge. Elisabeth Assayag.
Bienvenue dans La France Bouge, seconde partie gros plan aujourd'hui sur nos animaux de compagnie à l'occasion du Salon Animal Expo qui se tient à Paris au Parc Floral. Un Français sur deux possède un animal de compagnie, plus de chats que de chiens. Face à cette passion française, des entrepreneurs ont inventé des solutions pour nos animaux de compagnie. Nous allons les découvrir et pour en parler autour de la table, notre coach du jour, Luc Le Sénécal. Vous êtes le PDG de Saint-James, Dora Nana, qui vous ont donné toutes les infos en plus pendant toute la durée de l'émission. Et donc, nous allons parler de nos animaux de compagnie, parce que retrouver les courbes de poids et des tailles qui permettent de suivre l'évolution de votre chien tout au long de votre vie, ou alors par exemple si vous changez de vétérinaire, pourquoi ne pas tout noter dans un carnet de santé numérique ? C'est ce que vous avez imaginé. Bonjour Clara Roig.
Bonjour.
Vous êtes la fondatrice de Oh My Vet. Oh My Vet, c'est un site internet, c'est une appli aussi. Et c'est surtout un carnet de santé vétérinaire en ligne pour permettre un suivi en temps réel concernant nos animaux.
Exactement.
Comment ça marche ?
En fait, on crée simplement le dossier de son ou de ses animaux et ensuite, on va pouvoir remplir un maximum de données. Donc, que ce soit, comme vous le disiez, la taille, le poids, l'alimentation. On va pouvoir rentrer aussi, bien sûr, tout ce qui est traitement à venir ou en cours et générer des rappels, du coup, pour, entre autres, ne plus rien oublier.
Donc, on garde tout concernant les informations de santé de notre animal. Comment ça vous est venu, cette idée ? Je crois que, bon, déjà, vous avez baigné, vous avez beaucoup travaillé déjà avec les animaux.
C'est ça, en fait. Donc, déjà, de par mes études, vu que je suis titulaire d'un BEPA, gestion d'un élevage canin, et ensuite, j'ai travaillé comme auxiliaire vétérinaire pendant 18 ans. J'ai baigné aussi dans le monde de l'élevage, donc beaucoup dans le monde du chien. Et c'est, en fait, c'est toutes ces visions-là qui m'ont laisser penser qu'il manquait quelque chose dans le milieu de l'animal pour pouvoir gérer la santé de ces animaux partout.
Alors donc, on a le carnet de santé numérique. Par exemple, on va chez le vétérinaire et lui se connecte directement, c'est ça ? Comment ça se passe ?
Alors, soit on décide soi-même en tant que propriétaire de remplir le carnet de son animal, soit on peut demander au vétérinaire de le remplir. À ce moment-là, c'est le propriétaire qui génère un code. Ce code est valable une heure. Et il le donne au vétérinaire et le vétérinaire a juste à aller sur la plateforme, à rentrer ce code et à remplir les informations sur l'animal.
Dora.
Alors moi j'ai un chat, je m'aperçois tous les ans je dois faire un rappel. Est-ce que vous justement, grâce à l'appli, ça me le génère directement ? Moi je suis obligée aujourd'hui manuellement de me le rentrer,
et
rappel, attention, rappel rage, parce que voilà tous les ans je fais le rappel rage, et d'aller vérifier, de ne pas oublier parce que sinon c'est trop tard ou trop tôt.
Est-ce qu'il y a des notifications ?
Est-ce que là il y a des notifications ? Est-ce que si je fais ça, je suis notifiée directement et je sais que le 6 mai, il faut que je le fasse ?
Alors si vous êtes, donc il y a deux carnets qui existent, il y a le gratuit et le premium. Si vous êtes en premium, effectivement il y a des rappels intelligents, c'est-à-dire que vous remplissez les habitudes de vie de l'animal, Un cas tout simple, un chat qui va dehors et qui chasse aura plus besoin d'être vermifugé qu'un animal qui vit en appartement et qui n'a pas de colocataires qui vont dehors. Donc pas de chiens qui vivent avec lui. À ce moment-là, c'est le logiciel qui va vous dire quand est-ce qu'il faut vermifuger en fonction du produit que vous lui avez administré et en fonction des habitudes de vie de l'animal. Par contre, sur les vaccins, chaque vétérinaire a des protocoles très particuliers. Chaque clinique fonctionne différemment. Donc, il n'est pas possible, sur les vaccins, de prévoir les rappels automatiques, en tout cas. Après, le jour où vous rentrez le vaccin ou le vétérinaire rentre le vaccin, vous rentrez le rappel et un an plus tard, vous recevrez de toute façon la notification.
Donc ça, c'est un service premium. C'est là qu'va intervenir Luc, parce qu'on est dans l'entrepreneuriat total, parce que c'est payant.
Oui, est-ce que c'est payant ? Et quel
prix ? Le premium, oui. Il y a deux possibilités, soit sans engagement à raison de 3 euros par mois, ou en premium en annuel à raison de 30 euros par an.
Est-ce que ce carnet est reconnu à l'étranger ? Parce que moi aussi, j'ai des animaux. On voyage, et de plus en plus, on présente maintenant le carnet, le passeport.
Vous voyagez avec le carnet de santé, Luc ?
Oui, notamment pour aller en Angleterre, encore en Europe, mais... Comment ça se passe
avec le passeport européen, effectivement. Pour le moment, je suis en train de voir justement avec l'ordre des vétérinaires, etc., pour faire en sorte que MyVet devienne remplacement officiel du passeport. Pour le moment, c'est en cours.
C'est compliqué. Il y a des résistances.
Il y a des résistances.
Qu'est-ce qu'ils vous disent ?
Parce qu'il faut remplir un certain nombre de cahiers des charges, etc. Enfin voilà. Mais c'est en cours. Donc j'espère. J'espère que ça deviendra le cas rapidement.
Combien il y a de personnes dans votre entreprise ?
Vous êtes toute seule ? Je suis toute seule.
Vous êtes toute seule à gérer les carnets de santé numériques.
C'est
donc
ça.
Combien il y a d'abonnés ? C'est ça part sous abonnement ? Comment ça marche ?
Pour le moment, au niveau des inscriptions, en un an, là, à peu près 2500 inscrits.
Dora.
Moi, j'ai une petite question sur la perte des animaux. On voit tous les ans des animaux, des chats, des chiens qui se perdent. Est-ce que c'est utile au MyVet dans ces cas-là ?
Alors oui, c'est utile tout simplement parce que en fait, il y a un procédé de médaille qui existe. Donc c'est une médaille physique, hein, c'est une vraie médaille sur laquelle il y a marqué trouver, rentrer le code. Donc il y a un code lettres et chiffres mélangés sur le site omyvet.fr. Donc vous trouvez l'animal, vous allez sur le site. Il y a un petit onglet animal trouvé, vous rentrez ce code. Quand vous rentrez ce code, le propriétaire reçoit automatiquement un mail pour lui dire que son animal a été retrouvé.
C'est vachement bien.
Et vous avez le numéro de téléphone du propriétaire qui s'affiche. Pas de nom, pas d'adresse pour protéger au maximum ses coordonnées. Mais par contre, vous avez le numéro qui s'affiche. Si vous le rentrez depuis un smartphone, vous tapez directement sur le numéro pour appeler. Et le propriétaire a possibilité de laisser un message. Ça peut être simplement merci, mais ça peut être aussi « mon chien est épileptique, il doit avoir un traitement quotidien ». Mon chat n'aime pas les chiens. Enfin, voilà. Donc, quand vous tapez ce code, vous allez avoir tout de suite ce message, en gros, en rouge, vous ne pouvez pas le louper, qui s'affiche. Et vous, qui venez de trouver l'animal, ça peut vous permettre de vous mettre en garde sur des choses. Un chien qui n'aime pas monter en voiture, des choses comme ça, vous allez le gérer différemment.
Selon ce qu'on va trouver dans le carnet de santé numérique. Justement, au MyVet, ça s'adresse à tous les propriétaires d'animaux, ça s'adresse aussi aux éleveurs, ça s'adresse à tout le monde. Avec qui vous travaillez aujourd'hui ?
Tout le monde, aussi bien particulier que professionnel. Je travaille avec des associations. Je travaille
Des
refuges, des éleveurs, des particuliers. Tout le monde y a droit.
Luc ?
Oui, moi je pense que vous avez aussi un business à développer avec tous les vétérinaires, parce que les vétérinaires ont beaucoup évolué aussi en informatique, etc. Ils ont des systèmes, des SMS de rappel, etc. Donc je suis sûr qu'il y a un lien à faire, tout en respectant la clientèle des vétérinaires, mais je sais pas, par espace, par clinique, etc. Je pense que vous avez vraiment un atout pour vous développer via le réseau des vétérinaires, en vous associant entre guillemets avec eux, tout en protégeant leur clientèle.
Oui, bien sûr. Et en protégeant aussi, ils ont aussi leur logiciel qui fonctionne souvent très bien, mais pourquoi pas jumeler les choses, ça peut tout à fait s'imaginer comme ça, oui, exactement.
Vous restez avec nous et on va continuer à découvrir les solutions françaises qui facilitent la vie de nos animaux de compagnie.
Il est 13h18.
Europe 1.
Voyager avec son animal peut réserver bien des surprises. Un guide de voyage va pouvoir vous aider à choisir vos destinations. Vous allez le découvrir, c'est un guide de voyage pour les propriétaires d'animaux. Dans la
France Bouge jusqu'à 14h. On parle des innovations pour nos animaux de compagnie. Dites-nous si vous en avez chez vous, lesquels. Dites-nous aussi s'il vous manque une innovation qui pourrait vous aider au quotidien. Écrivez-nous via Twitter, @Europe1, ou appelez-nous au 3921, c'est 50 centimes la minute, Elisabeth.
Bonjour Sophie Morche.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes la fondatrice et la directrice générale d'EmmèneTonChien.com. EmmèneTonChien.com, c'est une sorte de guide de voyage pour les animaux.
Tout à fait.
Et comment ça vous est venu cette idée? C'est né d'une expérience?
Eh oui, quand j'ai adopté ma chienne, je me suis retrouvée confrontée au problème. Où est-ce que je trouve des adresses pour mes vacances? Comment je fais pour identifier un hébergement, des activités, des restos sur place?
Parce que tous les hôtels n'acceptent pas forcément des animaux de compagnie, ni les restaurants.
Non. C'est pas toujours le cas, effectivement. Donc, à l'adoption de ma chienne, je me suis dit, ça n'existe pas, allons-y, créons le guide des vacances. Une plateforme du coup collaborative où finalement chacun va venir partager ses expériences.
Donc ça, c'était il y a 4 ans ?
C'était il y a 4 ans l'idée, ouais.
Et comment, que s'est-il passé pendant ces 4 ans ? Vous êtes entourée ? Vous avez voyagé ? Comment vous avez fait ?
Complètement, je me suis entourée puisque la création d'entreprise, pour moi, c'est la première entreprise créée. Donc ça ne se fait pas comme ça. Je suis passée de l'idée que j'avais eue une nuit à un projet et puis à une entreprise qui a été créée il y a 2 ans. Et là, cet été, depuis 2 ans, on a accompagné 1 million de personnes à partir en vacances avec leur chien.
Alors, ça a commencé par un blog.
Exactement, où je racontais mes aventures avec ma chienne. Mm-hmm. Et finalement, je me suis rendu compte qu'on était en fait 18 millions de Français à avoir un chien et qu'on était potentiellement 18 millions à avoir au moins une expérience à venir raconter, à pouvoir partager. Donc, du blog, c'est devenu une plateforme collaborative où on peut, chaque waffers, donc voyageur avec chien, peut venir partager
son expérience lors d'un week-end ou lors de vacances.
Exactement.
Dora, justement, Sophie le disait, 18 millions d'animaux de compagnie, c'est colossal, les animaux de compagnie en France.
C'est colossal. 63 millions en France. Un Français sur deux en possède un animal de compagnie. Il y a 65% de chats pour 56% de chiens, 12 millions de chats, 7 millions de chiens et entendez-vous bien, des poissons, il y en a 34 millions.
Ah oui, ça, des poissons surprise. Rouges dans le bocal, évidemment.
Voilà. Et les mammifères, parce qu'on parlait des hamsters avec vous tout à l'heure, près de 3 millions. Hors et antenne, on dépense énormément d'argent pour nos animaux.
Combien
aussi.
C'est cher?
Alors, c'est 241 euros en moyenne par an pour un chien. Et on tombe à 151 euros pour le chat, ce qui explique peut-être aussi le choix du chat. 3/4 des dépenses, c'est de l'alimentaire. C'est un marché, l'alimentaire, qui pèse 4,3 milliards d'euros. C'est le même marché que les jeux vidéo. Je ne sais pas si vous vous imaginez. Alors qu'on parle beaucoup des jeux vidéo et qu'il y a un marché exponentiel, c'est pareil, c'est le même.
C'est 4,3
milliards.
Au niveau des animaux de compagnie. Alors vous, Sophie Morche, ce qui est intéressant, c'est que vous aviez travaillé dans le tourisme, vous aviez travaillé dans le web et vous avez un chien. Et vous avez dit, je vais combiner les trois pour monter ma boîte.
Exactement. Mon métier de départ, c'est le développement de projets touristiques, la promotion des territoires. Et en fait, je me suis rendu compte quand j'ai adopté ma chienne que dans le tourisme, on avait pensé aux fans de vélo, aux familles, aux fans de sport extrême. Et on avait complètement zappé cette population touristique qui est le propriétaire de chiens. Donc, on vient répondre à cette cible touristique.
C'est le TripAdvisor du chien.
Exactement.
Luc.
Je constate que vous avez 5% du marché. Donc, vous avez encore plein de... D'abord, bravo. J'aime beaucoup votre idée,
merci.
Votre concept. Et vous avez 5%, donc vous pouvez du marché à peu près, donc vous pouvez encore grandir. Mais comment vous définissez un endroit, un lieu dog-friendly? Vous avez des critères?
Oui.
C'est la gamelle d'eau, c'est quoi?
Exactement. On a créé un label qui identifie, qui qualifie l'offre touristique.
Il s'appelle
sur
comment?
4 niveaux. C'est un label, ça s'appelle Calidog.
Calidog,
et
okay.
Donc l'hébergeur peut avoir entre 1 et 4 truffes. L'idée, c'est de dire, ici... vous êtes les bienvenus, mais on n'en fait pas plus chez nous,
oui.
Pardon, une truffe. Et 4 truffes, finalement, il y a la gamelle, le tapis, il y a un pet sitter qui a été identifié, donc un baby
pour
sitter pour
garder
chien,
le chien
identifié
en cas de sortie.
Dans les parages. Peut-être qu'il y a même un service d'éducation où on va pouvoir faire des activités avec son chien. Donc, tout a été pensé pour le maître et son chien.
Oui, parce que le pet sitter, on ne va pas le garder forcément le chien dans la chambre. Il peut-être aménager une pièce dédiée aux animaux des clients présents dans l'hôtel.
En fait, notre métier chez nous, c'est de vous faire partir en vacances avec votre animal de compagnie. Mais il y a des endroits, parfois en vacances, vous allez visiter une fromagerie, vous faites du rafting ou autre, vous ne pouvez pas prendre le chien.
Il y a un endroit particulièrement, comme vous dites, Quali Dog, qui a toutes les truffes et qui...
Eh bien là,
qui,
hier, par exemple, j'ai, on a référencé du coup un village vacances sur la côte vendéenne qui a effectivement créé toute une offre spécialisée pour le propriétaire de chien. Donc vous venez en famille, il y a une garde sur place, il y a un éducateur canin, il y a un
des parcours de jeu peut-être, ouais. Non, des parcours de jeu, je disais.
Des parcours d'agility, exactement, oui.
Luc ?
Oui, est-ce que vous pourriez peut-être encore améliorer, peut-être vous le faites, mais où c'est que je peux trouver les croquettes préférées de mon chien ? Quel est le vétérinaire de garde ?
Les adresses locales en fonction de l'endroit de vacances. Locales
pratiques. Parce que justement, quand on se déplace, on a tous
C'est la phase d'après. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, moi, je vous envoie en vacances. Et puis, on est en train d'implémenter des briques qui disent, tiens, si je vous montre comment faire du paddle, je vous donne aussi le matériel qui va bien pour faire du paddle, le gilet de sauvetage. Je vous donne peut-être le modèle de paddle qui va bien pour aller faire du canipaddle. Et puis, demain, effectivement, je vous dirai, sur place, le chien se blesse, peut-être avec Oh My Vet. Et vous aurez le vétérinaire identifié qui va bien pour soigner le chien en urgence. Voilà, donc on implémente des briques parce que finalement, au départ, on envoie les gens en vacances, mais le besoin, ce n'est pas que des vacances.
Comment vous gagnez de l'argent ?
Alors, comment on gagne de l'argent ? On a différents modèles économiques. Le modèle numéro un, c'est finalement le prestataire touristique à qui on donne de la visibilité et qu'on accompagne en termes de qualité, qui va venir payer une annonce sur le site. C'est lui qui nous rémunère en premier. Ce n'est pas le Wafers qui, pour lui, le service est entièrement gratuit.
D'accord, donc ça va être le Dog B&B ?
Aussi, c'est un mélange de TripAdvisor et du Dog B&B.
Pourquoi pas les chats ? Pardon, moi j'ai un chat, je me dis tiens, le chat, je voyage avec, pourquoi pas les chats ?
Alors le chat bientôt. Ah. L'idée c'est qu'on est parti sur le chien, parce que finalement le chien vous l'emmenez dans votre hébergement, mais vous l'emmenez aussi à la plage, au resto, dans la grotte. Le chat vous le laissez dans l'hébergement. Mais on a effectivement des wafers qui pourraient devenir des miaulers, je ne sais pas.
C'est une bonne idée.
À terme.
Vous reviendrez nous en parler.
Exactement.
Vous restez avec nous, on continue à parler de nos animaux de compagnie. Vous, peut-être vous former au premier secours pour les sauver. On en parle dans un instant.
Il est 13h28.
Europe 1.
Arrêt cardiaque, hémorragie, étouffement, comment sauver son animal ? On en parle dans un instant avec Humanimal.
Ce vendredi, c'est la journée mondiale des animaux et dans la France Bouge, ils sont aussi à l'honneur puisqu'on parle des innovations pour nos animaux de compagnie. Vous en avez chez vous ? Dites-le nous via Twitter, @Europe1. Vous avez des questions pour nos invités ? N'hésitez pas à nous appeler également au 3921, c'est 50 centimes la minute, Elisabeth.
Oui, puis un accident est aussi rapidement arrivé quand on a un animal, un chien qui se fait percuter par une voiture, un chat qui se coupe avec un morceau de verre. Et il existe des gestes de premier secours que nous ne connaissons pas forcément. Bonjour David Roussin.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes le fondateur d'Humanimal. Vous avez fondé Humanimal en 2015 et vous, votre objectif, eh bien, c'est de permettre à chacun d'entre nous eh bien, d'amener notre chien, notre chat dans le meilleur état possible jusqu'à la clinique vétérinaire en cas d'accident. C'est un peu ça.
Tout à fait. C'était le but de la création d'Humanimal. C'était réellement de pouvoir offrir à tout le monde, professionnel ou tout simplement propriétaire, d'un chien ou d'un chat, la capacité déjà de pouvoir détecter qu'il y a un problème suffisamment tôt, sans jamais se prendre pour un vétérinaire, quand on n'est pas vétérinaire, si on n'a pas fait des études vétérinaires. Et on s'aperçoit très vite que le jour où on a un problème avec notre chat, notre chien ou notre bébé d'amour, que très rapidement on peut passer sur une phase empathie qui peut nous empêcher
nous
de prendre la bonne décision.
Être dans une,
voilà. Donc l'idée était réellement de pouvoir fournir à tout le monde, qu'on soit professionnel, grand public, amoureux des animaux ou tout simplement travaillant avec des animaux dans certains métiers, la capacité de détecter un problème suffisamment tôt, de façon à pouvoir prévenir suffisamment tôt un professionnel qui est le vétérinaire. Et puis, s'il devait arriver un accident, parce que les accidents de la vie, ça arrive pour les humains, ça arrive pour les animaux, être capable de faire le geste qui permette à votre animal, ou à un animal qu'on a pu croiser dans la rue, de le stabiliser et de le transporter chez un vétérinaire, mais dans les meilleures conditions possibles, et tout simplement en évitant que sa situation vitale se dégrade, de façon à ce que le vétérinaire prenne la suite.
Donc, c'est ainsi que vous avez élaboré les gestes de premier secours pour les animaux ?
Tout à fait, mais je n'ai pas tout créé, je me suis basé sur plein de choses
évidemment,
qui existaient déjà.
Bien sûr, bien sûr.
Il y a beaucoup de formations qui existent dans le monde. Même en France, on a eu des superbes travaux qui ont été faits au niveau du professeur Dominique Grandjean, par exemple, au niveau aussi du 132e bataillon cynophile de l'armée de terre, qui gérait les chiens, qui gère toujours les chiens militaires, où il y a des cours qui ont été faits sur ce domaine. Et beaucoup de documents qui sont issus d'autres pays, dans lesquels le premier secours animalier est un peu plus en avant. Et l'idée était de réellement retrouver ce que l'on a le droit de faire, parce qu'aujourd'hui, on est quand même dans une société de législation, de la réglementation et du légal, ne jamais rentrer dans l'exercice de la médecine vétérinaire, tout en permettant à tout le monde de faire
de
un geste.
De pouvoir faire un geste pour sauver son animal.
Voilà. Bah,
vous donnez des conseils hein, dans une série aussi de vidéos. Je vous propose justement d'écouter, voici ce que ça donne.
Bonjour, aujourd'hui dans cette vidéo, nous allons parler de l'étouffement, ou tout au moins des méthodes qui permettent d'éviter l'aggravation de l'état de votre animal lorsque malheureusement il a pris un objet, un petit jouet, voire de la nourriture dans la gueule et qu'il a avalé, même mal avalé vu que c'est parti dans les poumons, ou tout au moins bloqué au niveau du carrefour oropharyngé. Les techniques que nous allons voir vont concerner aujourd'hui le petit chien ou le chien de taille moyenne.
Donc, sauver un chien ou un chat d'un étouffement ou lui faire un massage cardiaque, il y a une technique bien précise, c'est pas du tout comme avec un être humain.
Alors la problématique de la comparaison justement entre le secourisme humain et le secourisme animalier, elle est fondamentale. De mon passé, de ma première vie travail, j'étais dans le métier du premier secours humain. Je dis le métier parce que c'est un domaine d'expertise. On ne sauve pas n'importe quelle problématique humaine de n'importe quelle façon. Quand je me suis lancé dans l'animal, la première chose que j'ai fait, c'est d'étudier, de regarder comment ça fonctionnait l'animal, que ce soit en zoo, que ce soit en éthologie, parce que fondamentalement, l'animal ne répond pas du tout des mêmes critères en termes de stress par rapport à un dégât, par rapport à quelque chose qui l'a énervé. Et l'animal ne va pas vous dire où il a mal. Et l'animal, quand il a mal, peut très bien tout simplement vous empêcher d'intervenir. Et on doit être capable de lire l'animal. Et c'est le plus gros problème que j'ai trouvé au début, c'était d'arriver à définir un curseur entre ce que veulent les gens, sauver un animal, et ce qu'on est capable de faire, mais en relation avec l'état de l'animal et ce qu'il va nous permettre de faire.
Mais vous, avec ces vidéos, c'est très concret.
J'essaye au maximum de faire des outils. L'idée étant de donner le savoir appartient à tout le monde. C'est mon principe de base. Plus les gens auront des moyens de faire, plus les gens auront vu comment faire, plus les gens pourront comparer. Parce qu'il faut comparer les sources. Hein. Aujourd'hui, je suis plutôt de l'école qui dit qu'il faut critiquer l'information. Plus en fait, on va trouver un point moyen qui permet de savoir ce que moi, je suis capable de faire.
Et ça, vous donnez des formations aussi. Oui. Il y a des vidéos et il y a aussi des formations où vous formez les gens avec leur propre animal. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est que c'est pas avec du plastique, c'est avec son propre animal. C'est vachement important de s'entraîner avec son propre animal.
Alors, tout à fait. C'était en fait une base de travail. Quand je me suis lancé dans l'animal de compagnie, je me suis pas lancé dans un bien meuble, je me suis lancé dans un être vivant, doué de sensibilité, et avec une relation à l'homme qui est très particulière, très 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 particulière, et que l'on ne doit pas mésestimer, et qu'on doit absolument respecter. Donc il fallait absolument que dans ces formations, on puisse avoir le respect de la personne, de l'animal, et de faire travailler les deux ensemble. C'est pour ça que je suis devenu, je vais me permettre, anti-peluche. Pourquoi ? Une peluche réagira toujours super bien à n'importe quel geste. Et le problème de l'humain, c'est qu'il est certain, après une journée sur une peluche, de maîtriser un geste.
Ce qui n'est pas le cas in situ, dans la réalité.
Tout à fait. Et donc, comme les gens viennent en formation avec leurs animaux, ça leur permet de travailler avec eux en partage. Donc, sans jamais saturer un animal, mais toujours en l'écoutant et en travaillant avec lui.
Que dit notre coach, Luc Le Sénécal ?
Oui, quel est votre modèle économique ? Comment vous vivez ? Et puis, vous dites, vous faites des formations, il y a aptitude 1, aptitude 2, mais quelle est la différence ? C'est homologué ? Comment vous fonctionnez un petit peu ?
Alors, pour mon modèle économique, ça c'est un mot que j'ai découvert il y a quelques années, que je ne connaissais pas du tout. En fait, c'est particulier. Moi, j'ai une première partie de vie, j'étais militaire pendant un certain nombre d'années. Ouais. Quand on arrive, c'est vrai, dans ce monde un peu particulier de monter une entreprise, tout à coup, on se prend plein de choses sur la tête. Il faut respecter plein de critères. En fait, l'idée de départ, j'ai jamais été dans un modèle économique. J'ai voulu, dès le départ, essayer de faire passer une passion. L'animal doit avant tout être passion. Et je pense qu'aujourd'hui, on a besoin de société. Pas de gens fondamentalement modèle économique, mais des gens passionnés qui font passer un message. Après, dans mon idée de départ, une passion attire parce qu'une passion respecte. Et l'idée était d'arriver à vivre, uniquement vivre de ce métier, parce qu'à côté de ça, je fais plein d'autres choses. Hein. Je suis enquêteur en maltraitance pour l'association Stéphane Lamar. J'essaie d'aider des petites associations comme la Petite Bohème, comme plein d'autres. Je travaille donc je suis partenaire de larges associations.
Donc vous donnez beaucoup de votre temps.
Mais j'essaye.
Mais concernant Humanimal,
vivez comment, ouais,
donc en fait,
vivez
les formations sont payantes. Oui. Je suis un organisme de formation.
C'est quel prix ?
Les personnes qui viennent avec leur chien ou leur chat payent 90 euros la journée de formation.
Des journées de 1 ou 2 jours ?
C'est une journée de formation. En fait, pour l'instant, je refuse, et je vous expliquerai pourquoi après, de faire des niveaux 1, niveau 2. L'idée étant que quand les gens viennent le matin, on accueille les animaux, on les fait se rencontrer, et après on va travailler toute la journée avec, c'est-à-dire théorie pratique, où on va bosser avec les animaux qui sont présents, le sien ou un autre. Et derrière, on finit des fois tard le soir, mais on est sur de l'andragogie, pas de la pédagogie. Et c'est vrai que quand les gens veulent apprendre, ben en fait, des fois, on se retrouve avec des grands moments de plaisir partagés. Mmh, c'est tout.
Bien sûr.
Mais j'ai peut-être une suggestion. Enfin, je suis vraiment fan des animaux, mais vous ne pourriez pas avoir une option comment éduquer les maîtres?
Alors, pour répondre à votre question, mais qui est totalement justifiée. En fait, et je l'entends très souvent, parce que je m'occupe aussi énormément de travailler sur changer le regard des gens par rapport aux chiens dits de catégorie ou chiens dangereux. On a un très gros problème humain, c'est qu'on ne connaît pas l'animal. On voudrait le connaître, on achète un animal, mais on devrait toujours entrer en possession de l'animal, mais en ayant appris comment il fonctionne, quels sont ses besoins, qu'est-ce qu'on va avoir besoin d'investir dans sa vie pour lui, ce qui évitera de tomber à un moment donné dans de la maltraitance sans le faire exprès, ou de l'abandon.
On va continuer justement à en parler de cette maltraitance, de cet abandon. Comment est-ce que vous vous occupez de vos animaux? On attend aussi vos témoignages, vos questions au 3921, bien sûr.
Il est 13h38.
Europe 1.
Restez avec nous, on attend vos questions, vos réactions. Vous aussi, faites-vous attention à vos animaux de compagnie. Pensez-vous à vous former pour tenter de sauver votre animal en cas d'accident? Appelez-nous pour nous parler de vos choix. Comment voyagez-vous aussi avec votre animal? On attend vos témoignages au 3921.
Cet après-midi, dans La France bouge, on parle des innovations pour nos animaux de compagnie. Elisabeth Assayag avec vos invités.
Oui, nous sommes avec Luc Le Sénécal, le président de Saint-James, avec Dora Nana de la rédaction d'Europe 1, et nos invités, Clara Roig, la fondatrice de Oh My Vet, le premier carnet de santé numérique pour les animaux de compagnie, avec Sophie Morche, la fondatrice d'Emmène ton chien plat.com. C'est un site internet où les propriétaires de chiens référencent les endroits où ils peuvent partir en vacances, en week-end, avec leurs chiens, et avec David Roussin, le président d'Humanimal. C'est un organisme de formation des premiers secours pour chiens et chats. Tiens, justement, Luc, vous nous suggériez tout à l'heure, vous suggériez à notre invité, à David Roussin, pourquoi pas une formation aussi pour éduquer les propriétaires des animaux. On a souri, mais c'est pas si drôle que ça.
Oui, moi, je pense que prendre un animal, c'est avoir une responsabilité. Et je pense que ça pourrait être presque obligatoire de connaître l'animal, de connaître aussi les contraintes. Parce que c'est de l'affectif au départ, mais après, ça peut être des contraintes. Donc, je voulais savoir si où vous êtes localisé. Est-ce que vous avez une ambition nationale? Est-ce que vous travaillez avec d'autres associations de votre type? Parce que je pense qu'il y a quelque chose à faire. Et puis là, on a reçu deux autres projets. Enfin, c'est même pas des projets, deux autres entreprises. Et je pense que à vous trois, vous pourriez faire quelque chose. Parce que vous n'êtes pas du tout concurrents. Bien au contraire, c'est des services différents. Mais je pense qu'il faudrait donner ça plus, pour certaines vous l'avez, mais plus une dimension nationale. C'est presque d'utilité.
Comme un engagement.
Qu'est-ce que vous en pensez ? Comme un engagement, oui.
En fait, la question que vous posez est totalement, non seulement justifiée et justifiable. Aujourd'hui, comme vous l'avez dit dans les chiffres, on est sur énormément de personnes qui possèdent des animaux. Malheureusement aussi, beaucoup, beaucoup de problématiques d'abandon d'animaux, de maltraitance. Et j'aime à le dire, maltraitance par méconnaissance, parce que l'être humain a une fâcheuse tendance à juger, sans jamais se mettre à la place des autres. Il suffit de regarder ce qu'on peut lire sur certains réseaux. Aujourd'hui, le mot courage et le mot aller voir réellement sur le terrain ce qui se passe, c'est vraiment quelque chose qu'on devrait reprendre dans nos gènes. Pour revenir sur ce que vous dites, oui, il existe déjà des formations pour l'éducation. Hein. Il existe un métier qui s'appelle éducateur canin, qui permet justement de pouvoir apprendre à l'homme la gestion de son animal et apprendre à l'animal la gestion de l'environnement de l'homme, comme il existe aussi ce qu'on appelle l'école des chiots. On va faire la même chose avec les chiots. Et c'est vrai que pour reprendre ce que vous dites, donc déjà, comme ça existe, le rendre obligatoire, à partir du moment où on voudrait obtenir un animal, partager la vie avec un animal, ça devrait être quelque chose qui devrait être décidé, mais au niveau d'un ministère. Pourquoi? Parce qu'après, l'application de quelque chose comme ça ne doit pas être faite par partie, mais vraiment partout.
Clara Roig, ça pourrait être un onglet, j'ai envie de dire, dans le carnet de santé numérique, la maltraitance?
Oui, pourquoi pas.
Vous y avez pensé?
En tout cas, tout ce qui est... Le problème, c'est que de dispenser des conseils d'éducation, de gestion de comportement, etc., ça s'adapte tellement à chaque couple, j'ai envie de dire, animal et propriétaire, que c'est quand même difficile de mettre quelque chose qui va être très global. Voilà.
Donc ça après, pourrait être utile aussi.
Mais donner des conseils de grande ligne, oui, ça volontiers.
Céline, je crois qu'on a reçu des questions sur Twitter.
On a Marc qui nous a envoyé un message sur Twitter, hashtag Europe 1, qui nous dit avoir un animal, c'est plus ou moins facile pour les adultes. Par contre, c'est plus compliqué pour les enfants. Quels sont vos conseils pour qu'ils sachent s'en occuper?
Je crois, Clara Roy, que vous planchez là-dessus en ce moment.
Voilà. Déjà, une règle de base, c'est que plus l'enfant est petit, plus l'animal est gros.
Vous avez un projet, je crois, de développer aussi quelque chose autour de l'enfant et de l'animal.
Alors, de l'enfant et de l'animal, oui, sur Oma Yvette, ça fait partie de ma longue liste de projets pour le site. C'est que j'aimerais effectivement qu'il y ait quelque chose, une sorte de coin un peu mini-reporter pour que vraiment les enfants puissent s'y retrouver, puissent avoir des conseils d'enfant à enfant sur comment gérer son animal, etc., sur la responsabilisation. Et c'est vrai qu'effectivement, on ne prend pas un animal pour un enfant.
Merci en tout cas à tous les trois d'être venus nous présenter vos entreprises, vos initiatives autour des animaux de compagnie, d'être venus nous en parler en direct avec autant de passion sur Europe 1.
Il est 13h46.
Europe 1.
Elle est centenaire cette année, vous connaissez sûrement leurs lunettes, l'ISAC et l'entreprise Qui va bien, merci.
Et c'est l'heure, Elisabeth, de découvrir l'entreprise qui va bien dans la France Bouge.
Bonjour Didier Papaz.
Bonjour.
Vous êtes le président de l'ISAC. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. L'ISAC qui appartient au groupe Optique 2000 et donc vous êtes aussi le PDG.
Oui.
Tout a commencé dans le Jura en 1897. Ça date de 1897, l'ISAC ?
Non, l'ISAC ne date pas de 1897, mais par contre, Georges Lissac, oui, le fondateur de l'ISAC, est né en 1897.
Mais et il était l'un des premiers diplômés de l'école d'optique de Moret.
De Moret, voilà. Moret qui, dans le Jura, est la capitale, le berceau de la lunetterie. Et en fait, Georges Lissac est venu, comme on dit, à la capitale. Il est monté à la capitale et il a créé en 1919 sa première boutique d'optique qui se trouvait rue Dauphine. Donc c'était le début de l'aventure Lissac.
Et alors Georges Lissac, il a très vite compris que le métier d'opticien devait se professionnaliser. Il a tout de suite, il a eu cette espèce du sens, entre guillemets, sans faire de jeu de mots, visionnaire.
Alors, effectivement, on peut dire qu'il a quasiment tout inventé dans l'optique. C'est lui qui a créé l'optique que l'on vit aujourd'hui, l'optique moderne. Et c'était quelqu'un qui était féru de science. Donc c'était quelqu'un qui était toujours extrêmement curieux. Il voyageait beaucoup aux États-Unis, il regardait tout ce qui se faisait et... Il a ramené une idée en se disant, bah finalement, les opticiens qui, à l'époque, étaient plutôt multitâches, c'est-à-dire que l'opticien, dans ces années-là...
Dans les années 30.
Dans les années 30, on était horloger, opticien, bijoutier, enfin, on faisait beaucoup de métiers en même temps, mais sans vraiment se spécialiser. Lui, il a dit, il faut les spécialiser, et on va créer du matériel spécifique, on va faire des examens de vue, et on va former des opticiens. Et ça, c'était vraiment novateur. Il avait aussi inventé la publicité.
Donc c'est lui qui invente l'examen de vue. Et c'est là que le métier de réfractionniste naît. Hein, vous regardez la focale, faire les tests, tout ça c'est lui.
C'est lui,
c'est Georges Lissac.
C'est Georges Lissac qui a créé un appareil qui permettait de changer les verres pour très très rapidement déterminer la correction visuelle. Donc c'était à l'époque extrêmement novateur.
Et en 1946, vous créez les montures Amor qui vont être reprises un an plus tard, donc en 1947, par 95% des opticiens, par quasiment tous les opticiens en France.
Bah, c'est un produit révolutionnaire.
C'est
parce que jusqu'à l'époque, les lunettes étaient souvent faites en écaille ou en corne et avec des verres minéraux. Donc elles étaient très lourdes à porter. C'était vraiment c'était vraiment des prothèses à l'époque.
On peut les voir en ce moment en direct sur europe1.fr. Hein.
Voilà, elles sont là. Et alors, qu'est-ce qu'il s'est dit ? Il s'est dit, moi je veux des lunettes qui soient extrêmement légères, qui soient quasiment invisibles. Donc, il a inventé une lunette qu'il a appelée Amor. Alors, Amor, pourquoi ? Parce que c'est le diminutif d'amortisseur, tout simplement.
Ah, moi, je pensais à Amour. Mais
bien sûr, ça pourrait être... Mais bon, je suis désolé, c'est moins romantique que ça.
Ok, l'amortisseur, d'accord.
N'oubliez pas que c'était quand même un technicien, quand même, avant tout. Donc, Amor comme amortisseur, hélas, ben oui, je fais tomber de mythe. Mais une lunette donc, qui était très légère, très fine, et sur laquelle on attachait les verres avec deux petites vis. Et au départ, les verres étaient en verre minéral, comme les verres de vitre. Mmh. Et le problème qu'il y avait avec ces verres, c'est que ça cassait très très vite, très facilement. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il est parti aux États-Unis, il s'est dit, il faut que je trouve une autre matière pour les verres de lunettes. Et il a trouvé une résine qui s'appelle le CR39. Et cette résine, il a pu en faire des verres de lunettes. Et ça, il a inventé ce qu'on appelle aujourd'hui le verre incassable, qui équipe 100% des Français aujourd'hui. Ça vient de lui, c'est lui qui a inventé le verre incassable en France. Donc il a inventé... la monture ultra légère, il a inventé le métier d'opticien, il a inventé le verre incassable, il a inventé la publicité, il a inventé le superstore aussi rue de Rivoli. Le
qui plus existe gros, encore. Hein.
Oui, 114 rue de Rivoli, le plus grand magasin du monde à l'époque. C'était novateur aussi.
2012, 200e magasin en France.
Oui, 2012. Alors nous avons repris l'enseigne Lissac en 2004 et donc nous avons accru la croissance et donc nous sommes arrivés à plus de 200 magasins. Aujourd'hui, nous sommes à près de 250 magasins.
Que dit notre coach, Luc Le Sénécal ?
J'ai bien noté, vous avez 250 magasins, mais où a lieu la production ? Est-ce que vous êtes toujours dans le Jura ? Les montures, les verres, où vous fabriquez ?
Alors, les verres, on se fournit exclusivement auprès d'un groupe qui s'appelle le groupe Essilor Luxottica, pour ne pas le citer.
Oui.
D'ailleurs, juste une petite anecdote, l'entreprise Essilor a été créée par Georges Lissac.
Très bien.
Donc le leader mondial de l'optique aujourd'hui a été créé par Georges Lissac.
Vous fabriquez où ? Je crois que vous avez votre propre atelier de fabrication. Alors nous, à Clamart.
On a un atelier à Clamart pour le sur-mesure. On fabrique le sur-mesure, donc qui est fait en origine France Garantie, bien sûr.
Oui.
Et on se source beaucoup, toujours sur le bassin jurassien en priorité, parce que ça fait partie de nos gènes. Et on est là aussi pour soutenir l'industrie du Jura. Et nous avons des collections, nous avons une collection qui s'appelle Gabin et Léonie, qui est produite directement en OFG dans le Jura.
Donc ce sont certaines de vos collections, de vos modèles qui sont labellisés Origine France Garantie, donc notamment ces modèles, Gabin et Léonie, mais pas toutes vos collections.
Non, pas toutes nos collections, parce que en fait nos opticiens, qui sont pour beaucoup des franchisés, ont la liberté de pouvoir choisir les fournisseurs qu'ils ont envie d'avoir, donc s'ils veulent diffuser des marques, ils vont diffuser les marques et les choisir eux-mêmes.
Est-ce que vous pensez au retour des verres, au traitement parce qu'on est obligé, enfin, on change souvent de verres, de lunettes. Est-ce que vous pensez au recyclage ou vous récupérez
la suite de la vie des verres?
C'est un vrai sujet pour nous. Alors, on a commencé par quelque chose qui est tout simple. Quand vous allez dans un magasin d'optique et vous essayez des lunettes, ces lunettes sont équipées de verres déjà, des petits verres en plastique qui vous permettent de faire l'essai. Ben on récupère tous ces verres, on les recycle. C'est facile parce que la matière est facile à recycler.
Et vous les recyclez en d'autres verres ?
Non, c'est recyclé dans d'autres. Enfin, la matière est recyclée pour servir à autre chose. Et sur le verre de lunette, comme c'est en fait, c'est un mélange de beaucoup de matières. C'est très difficile à recycler. Alors, qu'est-ce qu'on fait ?
On
les envoie en Afrique.
Notamment. Merci en tout cas, Didier Papaz, d'être venu nous parler avec autant de passion de l'ISAC, dont vous êtes le président. C'est la fin de votre émission. Merci à vous, Luc Le Sénécal.
Merci à vous.
D'être venu jouer le rôle du coach aujourd'hui. Je rappelle que vous êtes le PDG de Saint-James. Merci, Dora Nana,
pour cette belle semaine.
Céline, à lundi.
À lundi, Elisabeth. Et bravo à vous, Benjamin Lévesque et Dora Nana, d'avoir si bien assuré cet intérim, puisque dès lundi, nous en trouverons.
Raphaël revient. Parmi nous.
Effectivement. Dans un instant, c'est Christophe Andelat sur Europe 1.